Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Les Irakiens et les Kurdes se rapprochent de Mossoul, mais ils ne sont pas encore entrés dans la ville. Dans un instant, nous retrouverons nos envoyés spéciaux en Irak, Philippe Randé et Raymond Alboui. En Syrie, la Russie promet une pause humanitaire de 8 heures jeudi à Alep. Les explications de Valérie Krova à Damas. La Russie inaugure demain son centre culturel orthodoxe à Paris, avec sa pièce maîtresse, une cathédrale en bord de Seine. Quel est le poids de l'église orthodoxe russe dans la politique de Vladimir Poutine ? Nous en parlerons avec notre invité, l'historien Antoine Arjakovski. La bataille de Mossoul se concentre ce soir sur les environs de la deuxième ville irakienne. L'armée de Bagdad et les Peshmerga kurdes ont déjà repris une vingtaine de villages à l'État islamique. Ils sont aux portes de la ville chrétienne de Karakoch, mais ils n'ont pas encore atteint les faubourgs de Mossoul. Notre envoyé spécial Philippe Randé suit la progression des Peshmerga sur le front de Razer à l'est de Mossoul.
Avec sa couverture sous le bras, Ismaël s'installe sur la terrasse d'une maison que lui et son groupe de Peshmerga viennent de reprendre aux djihadistes. Quelques instants de fierté et de bonheur, vite interrompus par des tirs venus du village d'en face.
C'est de notre côté. On tire sur les djihadistes qui sont dans cette maison en face de nous. On les voit bouger, donc on tire. Hier, ils étaient ici, mais ils ont fui en face. Mais bon, c'est une nouvelle position pour nous et on n'est pas tranquille. Parce que si on n'est pas aidé par les bombardements de la coalition, ils vont commettre des attentats suicides pour nous jeter des grenades.
Si les Peshmerga ont repris 9 villages ces dernières 24 heures aux djihadistes, Mossoul est encore loin, à plus de 15 km. Saïd Chkour est le général kurde qui coordonne les opérations.
En ce moment, on sécurise les lieux en cas de contre-attaque de Daesh. Mais on n'avance plus. C'était l'accord entre Bagdad et nous. On reprend ces 9 villages et on attend que les forces irakiennes finissent le travail. Mais pour l'instant, il ne se passe rien.
Et la prochaine offensive des forces irakiennes pourrait être dès demain vers le village de Bartala, un village où les djihadistes ont provoqué des incendies toute la journée pour empêcher d'éventuels raids aériens.
Philippe Randé avec Raymond Alboui pour les moyens techniques. La bataille de Mossoul sera longue, a prévenu aujourd'hui le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Elle sera difficile, affirme Barack Obama, qui prévoit des avancées et des revers pour les forces de la coalition. Selon le Pentagone, l'État islamique empêche les civils de quitter Mossoul. Il les utiliserait comme boucliers humains. Il y aurait dans la ville moins de 5000 djihadistes pour 1,5 million d'habitants. Sur le front syrien à présent, la Russie a fait un petit geste en direction des Occidentaux qui réclament la fin des bombardements sur les quartiers rebelles d'Alep. Moscou annonce une trêve humanitaire de 8 heures jeudi. Un geste de bonne volonté, affirment les Russes. Reste à savoir comment une trêve aussi courte peut aboutir à un cessez-le-feu durable en Syrie. On retrouve à Damas notre envoyé spécial Valérie Krova.
C'est donc jeudi entre 8h du matin et 16h qu'une pause humanitaire est censée entrer en vigueur dans la partie orientale d'Alep. Le ministre russe de la Défense a précisé que 6 corridors humanitaires seront aménagés pour sécuriser le passage des milliers de civils bloqués dans les quartiers assiégés. 2 couloirs spéciaux, un au nord sur la route du Castello et l'autre dans le centre d'Alep, seront réservés aux groupes rebelles qui se battent contre l'armée loyaliste et qui souhaiteraient eux aussi quitter Alep Est. Il est prévu que les combattants soient répartis en une cinquantaine de groupes et que les troupes syriennes se retirent à une distance suffisante de façon à les laisser passer avec leurs armes. Mais dans la proposition russe, il n'est pas précisé où ils devront se rendre une fois qu'ils seront sortis et s'ils auront des garanties de ne pas être arrêtés. Plusieurs groupes rebelles, notamment les islamistes Dahrar al-Sham, ont d'ores et déjà répondu qu'ils n'avaient pas l'intention d'abandonner la partie orientale de la ville. Pour ces groupes, il s'agirait d'une reddition, ce qui donnerait d'eux une image catastrophique. Restent les civils. Le plan de Moscou vise aussi à tester la détermination des habitants qui sont soumis à un déluge de feu depuis le 22 septembre, depuis que le régime syrien et son allié russe ont lancé une vaste opération militaire destinée à reprendre entièrement la deuxième ville de Syrie.
Valérie Krova, la crise syrienne, il en sera sera question demain soir à Berlin où Angela Merkel accueillera Vladimir Poutine et François Hollande. Les trois dirigeants participent à un sommet sur l'Ukraine avec le président ukrainien Petro Poroshenko. Initialement, Vladimir Poutine devait être à Paris demain pour inaugurer le centre orthodoxe russe du Quai Branly, à côté de la Tour Eiffel, mais en raison de la brouille diplomatique avec Paris sur le dossier syrien, justement, le président russe a finalement renoncé à ce déplacement. Mais le centre orthodoxe, lui, sera bien inauguré demain par le ministre russe de la Culture, Vladimir Medinsky, et par l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov. Côté français, aucun membre du gouvernement n'est annoncé. Ce centre orthodoxe est dominé par une cathédrale coiffée de 5 bulbes dorés. Coût du chantier, 170 millions d'euros, entièrement financé par la Russie. L'occasion pour nous d'évoquer ce soir le poids du patriarcat de Moscou dans la vie politique russe. Invité de ce journal, l'historien Antoine Arjakovsky, enseignant au Collège des Bernardins. Bonsoir.
Bonsoir.
Antoine Arjakovsky, de quelle église orthodoxe parle-t-on à propos du centre culturel russe du Quai Branly ?
On parle d'une des 14 églises orthodoxes autocéphales dans le monde, à savoir l'église russe du patriarcat de Moscou. C'est une église importante, hein. C'est la principale église en nombre de fidèles. Alors, il y a beaucoup de débats combien elle a de fidèles. Les statistiques en Russie disent qu'elle a 57 millions de fidèles en Russie, mais aussi des fidèles dans d'autres pays, comme en Ukraine, où on considère qu'il y a environ 12 millions de fidèles qui dépendent du patriarcat de Moscou. En France, l'orthodoxie, on la chiffre autour de 500 000 fidèles. Alors, la majorité des paroisses, ce sont des Russes qui sont arrivés dans les années 20, mais à partir de 1927, ont quitté le patriarcat de Moscou à cause de la politique de rapprochement de cette église avec Staline, et qui se sont mis sous l'homophore, c'est-à-dire sous la juridiction du patriarcat de Constantinople. Donc c'est le patriarcat de Constantinople qui est la première église en France, suivi du patriarcat de Roumanie, et il y a effectivement quelques paroisses du patriarcat de Moscou, mais aussi de Serbie, d'Antioche, enfin des 14 églises orthodoxes.
Antoine Arjakovsky, quels sont les liens entre l'église russe et Vladimir Poutine?
Alors c'est des liens très étroits. Cette église du patriarcat de Moscou en 1927 a été intégrée, si je puis dire, au sein de l'État russe, puisque le métropolite Serge à l'époque a dit à Staline « Vos joies sont nos joies, vos peines sont nos peines ». Et lorsque Staline a rétabli cette église en 1943, eh bien, il en a fait comme une sorte d'extension de l'État russe. Donc c'est des liens très étroits qui sont prolongés aujourd'hui par le patriarche Kirill, qui se trouve actuellement en Angleterre, et l'une des premières déclarations qu'il ait faite, c'était pour dire que le rôle de la Russie en Syrie est remarquablement honnête et honorable. Donc on sent une proximité par rapport à la politique étrangère du président Poutine, mais sur des tas d'autres sujets, et notamment sur l'idéologie du monde russe, c'est-à-dire sur cette idée qu'il faut que la Russie retrouve ses frontières linguistiques et civilisationnelles, c'est ça l'idée impériale du monde russe. Le patriarche Kirill est tout à fait en phase avec la politique du président Poutine. Donc c'est une église, alors c'est pas une église d'État comme c'est le cas en Angleterre pour l'église anglicane, mais c'est une église extrêmement proche et collaborant étroitement avec le Kremlin.
Donc en fait, Antoine Arjakovsky, dans l'esprit de Vladimir Poutine, il n'y a pas de séparation entre l'église et l'État comme en France.
Si vous voulez, l'Église orthodoxe n'a jamais été vraiment favorable à la séparation radicale entre la religion, les religions et l'État. Il y a cette idée d'une symphonie nécessaire entre l'État et l'Église. On ne peut pas séparer, comme le disait le patriarche Phocius au IXe siècle, l'âme et le corps. Alors l'Église s'occupe des âmes et le tsar ou l'empereur s'occupe des corps. Malheureusement, cette doctrine-là, eh bien, elle n'est pas vraiment chrétienne. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a été critiquée au début du XXe siècle par des intellectuels russes, comme Berdiaïev, Bulgakov. Mais ces intellectuels, ils ont été expulsés par Lénine, ensuite par Staline. Et donc, ce qui est resté, c'est cette idée de la symphonie byzantine. Et malheureusement, ils n'entendent pas la critique qui avait été faite par Berdiaïev, à savoir qu'il faut une séparation entre l'État et l'Église, puisque c'est le Christ lui-même qui le dit dans l'Évangile, de ne pas mélanger le royaume de César avec le royaume de Dieu. Mais il faut aussi penser une collaboration entre les religions et l'État, puisque le Christ, là encore lui-même dans les Évangiles, dit à Pilate, tu n'aurais pas de pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et tout le malheur, c'est qu'il n'y a personne en Russie qui soit capable de penser de façon antinomique, finalement, et la séparation et la coopération. Aujourd'hui, on est complètement dans la coopération, au détriment, à mon avis, et de l'Église et de l'État.
Et c'est donc dans ce contexte que, finalement, ce centre orthodoxe russe de Paris, eh bien, c'est un peu une vitrine de la Russie de Poutine.
Ah oui, c'est l'idée d'une église puissante, hein, puisque chacun sait que ça a coûté plus de 130 millions d'euros, donc c'est une somme assez gigantesque. Une église puissante, une église qui se présente comme l'unique interlocutrice de l'orthodoxie, alors que en réalité le primus inter pares de l'église orthodoxe, c'est le patriarche Bartholomée de Constantinople, et c'est lui qui arrive à faire un consensus au sein des églises orthodoxes. On l'a vu lors du concile panorthodoxe du mois de juin dernier en Crète. Il y a des consensus qui ont été adoptés, mais l'église russe, par contre, elle était absente. Donc en fait, elle a une position assez marginale dans l'orthodoxie. Mais ça, c'est pas du goût ni de Poutine ni du patriarche Kirill, et c'est donc la raison pour laquelle on renforce ce soft power, cette idée que, eh bien, c'est l'Église russe qui, comme elle est la plus nombreuse, comme elle est la plus puissante, comme elle est la plus riche, doit être l'unique interlocutrice.
Antoine Arjakovski, historien orthodoxe, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En France, la violence en milieu scolaire prend une tournure inquiétante ces jours-ci en région parisienne. Il y a tout d'abord l'agression de la proviseure d'un lycée professionnel de Tremblay en France. En Seine-Saint-Denis, elle a été frappée au visage parce qu'elle voulait mettre un terme à une véritable émeute devant son établissement. Plusieurs dizaines de jeunes n'ont pas hésité à jeter des cocktails Molotov sur le lycée à 8h du matin. Et puis à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, c'est un enseignant de CE2 qui a été violemment agressé devant ses élèves hier. Le professeur qui ramenait ses élèves d'un cours de sport a été pris à partie dans la rue par deux individus qui passaient en voiture. Deux hommes qui l'ont plaqué au sol et frappé au visage parce qu'il venait de réprimander l'une de ses élèves. Sébastien Baer s'est rendu à l'école Paul Langevin d'Argenteuil.
Dans le courrier remis aujourd'hui aux parents d'élèves, le directeur évoque le choc causé par cette agression violente. Le choc pour les parents.
C'est un acte grave, parce que se faire agresser comme ça, sous les yeux de ses élèves, c'est un acte grave et gratuit.
Le choc aussi pour les enfants de l'école, ceux de la classe de CE2 qui rentraient d'un cours de tennis et qui ont assisté à l'agression, et ceux des autres classes.
Ils l'ont mis à terre, ils lui ont écrasé la tête et ils lui ont mis des poings dans la tête. Franchement, ça m'a fait très mal au cœur de ce que j'ai vu.
Les témoins racontent que l'enseignant, âgé d'une cinquantaine d'années, a été pris à partie alors qu'il était en train de gronder l'une de ses élèves. Ces deux assaillants l'ont jeté à terre avant de lui donner des coups de poing au visage. Une violence que condamne Olivia, la maman d'un élève de CE2.
Pourquoi ces jeunes gens s'en sont pris à lui comme ça, je ne sais pas. S'il lui a dit quelque chose, c'était pour sa sécurité à elle et en aucun cas... être méchant, quoi. De toute façon, les enfants de notre époque ont plus beaucoup de respect. Ça se voit déjà en maternelle. Les enfants, ils prennent du caractère, ils ont plus trop peur de l'adulte.
Même s'il a été très choqué, l'instituteur a pu reprendre le travail aujourd'hui. Dans sa lettre, le directeur invite les parents à adresser des messages de soutien à l'enseignant.
Sébastien Baer. L'actualité politique est marquée ce soir par ce meeting d'Emmanuel Macron à Montpellier. L'ancien ministre de l'économie, qui n'a toujours pas déclaré sa candidature à l'Élysée, a rassemblé 1200 personnes au zénith de la ville. Emmanuel Macron particulièrement offensif sur les questions identitaires. Il récuse les propositions musclées de la droite sur le sujet, mais il balaye aussi celle de François Hollande. Dans son discours Salvagram, le président avait affirmé que la France, ce n'était pas une identité, mais une idée. On écoute la réponse d'Emmanuel Macron.
La France, ça n'est pas une identité fixe, fermée, repliée sur un passé fantasmé. La France n'est pas non plus une idée à laquelle on songe de manière abstraite. La France, c'est une volonté. C'est notre volonté. Et il n'y a que ça qui la tient. Car la France, depuis tant de siècles, nous ne l'avons pas simplement reçue en héritage. À chaque fois, nous l'avons faite. À chaque fois, nous avons résisté. À chaque fois, nous l'avons voulu. À chaque fois, nous l'avons réinventé. C'est ça, la France.
Voilà Emmanuel Macron en meeting ce soir à Montpellier, propos recueillis par Ludovic Piétenu. Le tribunal administratif de Lille a validé aujourd'hui le principe du démantèlement de la jungle de Calais. Les juges ont rejeté les recours déposés par 11 associations de soutien aux migrants. Les magistrats ont invoqué l'urgence humanitaire. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a expliqué que ce démantèlement était une question de jours, sans donner de date précise. Il y a aujourd'hui dans la jungle de Calais 5700 migrants selon les autorités, environ 10 000 d'après les associations. Un mot de la météo demain, des averses au nord et du soleil au sud. Les brouillards matinaux seront généralisés sur la moitié nord. Température maximale 10 à 15 degrés au nord de la Loire, 15 à 22 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.